France Inter.
Bonjour à toutes et à tous. Si depuis la nuit des temps, la figure maternelle a été présentée comme la pierre angulaire de la famille, longtemps considérée comme seule responsable du bien-être émotionnel de leurs enfants face à une figure paternelle, symbole d'autorité, les nouveaux pères, comme on les appelle, veulent changer la donne. Vous avez déjà entendu parler de ces nouveaux pères. Ils se baladeraient en ville, portant leur enfant en porte-bébé, prépareraient les repas, changeraient les couches et seraient même capables, tenez-vous bien, de verser une larme quand leur progéniture fait ses premiers pas. Ces pères débordants d'amour, on nous les vend comme une nouvelle espèce, alors que, pardonnez-moi, mais on en a tous connu au moins un. Rappelez-vous, en 1980, Daniel Balavoine était un père publiquement meurtrier et passionnément père en chantant « C'est mon fils, ma bataille ». Alors est-ce que Daniel Balavoine a inspiré une nouvelle génération de pères nés 20 ans plus tard? Est-ce que la paternité est vraiment différente en 2025? On mène l'enquête ce matin dans Grand Bien vous fasse et on attend vos messages ou vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France. Nous sommes lundi 28 juillet. Grand Bien vous fasse en direct tout l'été pour vous accompagner.
France Inter. Grand bien vous fasse, Yasmine Ouglis.
Un papa, ça sert à aller au marché.
Ça gagne des sous pour acheter des jouets aux enfants.
Est-ce que c'est gentil?
Parfois.
Est-ce que ça gronde aussi?
Oui. C'est un monsieur.
C'est un monsieur qui fait quoi?
Qui donne à manger à ses enfants.
Et ça gronde aussi?
Oui.
Quand par exemple?
Dimanche.
C'est un extrait d'un reportage de 1970 de TV Rhône-Alpes Actualité. Voilà ce que les enfants disaient de leurs parents. Je vais vous présenter mes invités ce matin. Bonjour Rémi Guilloton.
Bonjour.
Alors vous êtes papa de deux filles de 9 et 13 ans, mais vous êtes aussi père d'un média sur les pères qui se nomme Daron au pluriel et l'auteur de Nouveau Daron, Bienvenue au Club aux éditions Solar. On peut dire que les papas, c'est votre rayon.
Ouais, c'est mon rayon. Ouais. J'ai pris ce thème à bras le corps vraiment il y a quelques années parce que c'est...
Et on va explorer ce thème avec vous, mais aussi avec Guillaume Fosco. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Vous êtes aussi papa de Dofi, vous êtes avant tout humoriste, ou alors vous êtes humoriste et avant tout papa, c'est ce qu'on va voir. Le moins qu'on puisse dire, c'est que votre parentalité vous inspire. Vous êtes sur scène avec votre spectacle Daron Fragile, dans lequel vous tournez en dérision votre quotidien de papa. C'est pas facile tous les jours, je crois.
Non, pas tous les jours, mais c'est une source d'inspiration sans fin.
Inépuisable. Bonjour Alexandre Lacroix.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, directeur de la rédaction de Philosophe Magazine, écrivain et père de 5 enfants. Vous êtes l'auteur, entre autres, de La naissance d'un père, édité chez Alary. Depuis combien de temps êtes-vous père? Depuis combien d'années, Alexandre Lacroix?
C'est facile, l'an 2000.
D'accord, ça fait donc 25 ans, même si on n'est pas bon en maths comme moi. On a le calcul en tête. On sera aussi en ligne avec Guillaume Doudin, co-auteur d'une formidable enquête journalistique sous forme de BD, L'arnaque des nouveaux pères, paru chez Glénat. Et avec lui, on fera le point sur ce que les papas de 2025 ont de nouveau, ou pas finalement.
Beaucoup de pères ont encore le préjugé de croire que c'est une fois que l'enfant parle, par exemple, qui sera intéressant. Alors que c'est quand il est tout petit qu'on établit des relations importantes et... donner à manger, changer, faire des choses simples comme ça, ça établit une relation qui est très importante pour la suite. Mais il y a encore des préjugés qui sont enracinés. Et, je sais pas, j'ai par exemple un collègue, il dit que jamais il oserait faire comme il voit faire aujourd'hui, pousser un landau. Il aurait honte, il dit c'est comme me promener en barboteuse, je me sens, hein, c'est vrai, j'aurais honte de faire ça, ou faire le marché même. Il y a de plus en plus d'hommes qui font les courses et le marché, c'est vrai. Mais lui, il trouverait ça ridicule, il se sentirait très très mal à l'aise. Il aurait l'impression que sa virilité en est affectée, quoi, je sais pas.
Alors on est en 1977 sur TF1 dans l'émission À la bonne heure qui s'intéressait déjà avec Gisèle Halimi en plateau au nouveau père. Il faut dire que la décennie 70-80 a marqué un tournant vers plus d'égalité entre les pères et les mères. Et on peut rappeler qu'avant la loi de juillet 1970, les pères étaient chefs de famille, seuls responsables au regard de la loi de leurs enfants. Le père qu'on vient d'entendre était donc une exception. On est en 2025, Alexandre Lacroix, je l'ai dit, ça fait 25 ans que vous êtes père. Comment elle a évolué votre paternité en 25 ans à vous?
Alors, je ne sais pas si elle a évolué en 25 ans, mais dans ce témoignage, il y a quelque chose qui est dit, qui me tient à cœur. C'est l'idée que la paternité ne se vit pas sur le plan du langage, de la discussion. Je vais faire un instant de la philosophie, mais c'est vrai qu'il y a deux visions. Si je schématise de l'éducation, on trouve une vision chez Platon où on éduque par le dialogue, hein, les fameux dialogues philosophiques. Et donc, c'est le logos. On met en place des dialogues. Et en fait, l'enfant n'est pas intéressant tant qu'il n'est pas capable d'entretenir avec ses parents un dialogue riche. Et c'est là qui va stimuler intellectuellement le parent. Et ben moi, je pense tout le contraire. Je serais du côté d'Aristote, et Aristote voit beaucoup plus l'éducation à travers le mimétisme. Donc, si l'éducation passe par le mimétisme, ce qui est essentiel, c'est tous ces gestes du quotidien partagés. Comment je me conduis, comment je parle, qu'est-ce que je fais de mes journées, et comment je donne à manger, comment je m'habille. C'est toutes ces petites choses que l'enfant observe dans le quotidien qui vont lui former son caractère, son comportement. Moi, je pense depuis toujours que c'est cette voie-là, c'est-à-dire que j'ai vécu pendant ces 25 années la paternité comme quelque chose, finalement, j'en parle philosophiquement, mais comme quelque chose de très concret, qui passe par des gestes, qui passe par le quotidien, qui passe par l'ordinaire, qui passe par les changements de couches, les biberons, les vicissitudes, les poussettes qu'on pousse, beaucoup plus que par des grands discours qu'on adressera à ses enfants en leur disant ce qu'il faut faire.
Concrètement, vous étiez un père actif et investi il y a 25 ans.
Oui, alors moi, adolescent, je souhaitais pas spécialement avoir d'enfants, j'en ai 5, et en fait, ça a été merveilleux. C'est-à-dire qu'à 25 ans, mon premier fils est né. À cette époque, j'étais écrivain à plein temps. Je vivais entre la campagne et Avignon, et en fait, j'ai pu m'occuper de lui jusqu'à ce qu'il rentre en maternelle. J'avais pas de mode de garde, mais j'étais indépendant, de son lever jusqu'à 13h tous les jours pendant 3 ans. Et ça aurait pu passer pour d'autres pères pour une corvée. Et ce sont des années merveilleuses pour moi. Ces heures-là, j'ai redécouvert le monde à travers ses yeux. C'est ça qui m'est arrivé. C'est-à-dire que son regard, je me souviens, dans les rues d'Avignon, s'arrêtait sur un tractopelle ou s'arrêtait sur les canards au bord de l'île de la Barthelasse. Et son regard et mon regard accompagnaient le sien. Et toutes ces choses qui, tout ce quotidien qui était vidé de sens, vidé de relief pour moi, prenaient de la force et de la beauté à travers le regard de mon jeune fils. En fait, il s'est créé un lien très fort entre nous dans toutes ces heures passées ensemble. C'est pour ça que je dis que c'est concret et que c'est une expérience qui n'est pas de l'ordre du discours. C'est vraiment même si je discours là maintenant, mais l'expérience elle-même, c'est vraiment.
C'est le partage, c'est oui. Le vécu, c'est ce temps que vous avez passé avec votre enfant. On a entendu ces enfants décrire le rôle du père pour eux. Vous, Rémi, Guilloton, vous êtes papa de deux filles. Quel est le rôle d'un père, selon vous, au sein de la famille ?
Voilà, vaste question. Bah, en gros, moi, le rôle d'un père, pour moi, c'est d'accompagner, nos enfants dans leur vie, mais à tous les niveaux. Et souvent, je parle de, que ce soit dans mon bouquin ou sur mon média, je parle de soins. Le soin, c'est souvent réservé à la maman, et ça depuis toujours, et ça l'est encore aujourd'hui. On peut parler de pères qui poussent des poussettes, qui changent des couches, qui font des biberons, qui préparent à manger, machin, mais le soin, ça reste le domaine de la maman. Et moi, je mets un point d'honneur à partager, et depuis le début, le soin avec ma femme concernant les enfants, c'est-à-dire un rendez-vous sur Doctolib chez un pédiatre, chez le médecin, chez le dentiste, machin. Tout cet accompagnement à ce niveau-là, pour moi, c'est important que le père prenne sa place. Et on sait, et je pense que Guillaume Donin nous en parlera tout à l'heure, mais on sait que les chiffres ne sont pas bons à ce niveau-là. Je crois que c'est 85% des rendez-vous sur Doctolib sont pris par les mamans pour les enfants.
83%, effectivement, on y reviendra tout à l'heure.
Et donc avec voilà, il y a quelque chose à faire là-dessus. Et moi, pour moi, c'est en tout cas, sur ma paternité, c'est ce qu'il y a de plus important.
Il y a encore du boulot, voilà, ça c'est ce que vous vous dites. Guillaume Fosco, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes sur scène avec un spectacle qui s'appelle Daron Fragile. On aimerait quand même bien savoir ce que ça veut dire.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, pour moi en tout cas, être un daron aujourd'hui, c'est répondre aux nouvelles injonctions qu'on met sur les pères, mais c'est aussi avoir grandi dans les années 80 me concernant avec des modèles qui étaient absolument différents et avec d'autres injonctions, mais en tout cas un modèle qui était très différent. Pour moi, être un daron fragile, c'est se vouloir être un nouveau père avec un ancrage qui était opposés et quasiment diamétralement opposés, quoi. Donc être fragile, c'est être un peu entre les deux. Et j'ai l'impression qu'entre ce que j'ai vu moi chez moi et ce que j'ai envie de donner à mes enfants, il y a un décalage sur lequel il faut jouer, sur lequel il faut improviser. Et c'est ça pour m'être fragile.
C'est tout le challenge finalement pour vous, c'est de vivre votre paternité avec l'héritage de ce que vous avez reçu. Mais Alexandre Lacroix, j'imagine que voilà, il faut déconstruire tout ça. On parle d'ailleurs beaucoup de pères déconstruits. Qu'est-ce qu'ils doivent déconstruire ?
Oui, c'est là que je suis un peu plus gêné pour prendre la parole. Moi, j'avais pas de modèle familial ou paternel très solide. Voilà, j'ai un père qui est mort quand j'étais assez jeune, et c'est peut-être pour ça que j'ai pris goût à la filiation. Et ma famille n'était pas une famille classique, si ça existe. Et donc, en fait, cette figure tutélaire du père qui incarne l'autorité, moi, je ne l'ai jamais connue. J'ai grandi dans les années 80, où je n'ai pas l'impression que cette figure existait dans les familles de mes camarades non plus, ou pas tellement.
Vous parlez du père en tant que figure d'autorité ?
Oui, ce qu'on voit, quand vous lisez les mémoires d'Outre-Tombe, par exemple, de Chateaubriand, vous voyez qu'il est absolument terrifié par son père. Il raconte comment, quand il joue avec sa sœur dans le grand salon du château, comment quand le père approche, il range les jeux, il se cache, il se taise, parce qu'ils ont peur du jugement sur leur jeu puéril. Cette figure-là, pour moi, elle appartient au livre. C'est-à-dire que je ne l'ai pas connue. Donc, je n'ai pas eu à déconstruire quelque chose qui aurait été là. Et au fond, moi, j'ai vécu la paternité de manière très, très intuitive. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai écrit un roman et pas un essai. C'est-à-dire que j'ai écrit un roman parce que il m'est difficile d'élargir, de généraliser. Autant en philosophie, on essaye d'aller vers la généralité, mais moi, je suis mal à l'aise avec cette généralité. Est-ce que ces pères de Chateaubriand existaient dans les années 60, 70, 80 encore vraiment ? Peut-être, j'en sais rien.
On peut peut-être se dire qu'il y a autant de pères que de paternité. Après, il y a quand même des lieux communs et une société qui nous envoie quand même des images. Alors, on va continuer notre plongée dans l'univers des papas d'aujourd'hui. Juste après, un conseil précieux, vous allez voir, c'est celui de Mathieu Bogart qui nous dit qu'il faut toujours écouter son corps. Ce matin, dans Grand Bien vous fasse, on passe les papas à la loupe avec nos invités, le philosophe Alexandre Lacroix, l'humoriste Guillaume Fosco et Rémi Guilloton, créateur du média Daron. On poursuit notre état des lieux sur les papas français version 2025. Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à réagir. Parlez-nous des papas que vous connaissez. Vous qui êtes sur notre plateau ce matin, vous avez plusieurs points communs, tous les trois. Je dirais d'abord celui de partager votre paternité avec le plus grand nombre. Rémi Guilloton, vous, votre paternité, elle est au cœur de votre travail, ce que je trouve assez rare. Comment ça vous est venu ?
Bah franchement, je crois que c'est vraiment c'est instinctif. C'est quelque chose qui m'est tombé dessus quand, à la naissance de ma première fille, en fait, où je me suis dit, ce que je suis en train de vivre, c'est extraordinaire ce qui se passe là. Le lien, l'amour que je ressens, j'avais envie de le partager, ce moment et cette vie. Et j'ai eu la chance de pouvoir passer du temps avec mes filles, les deux. Énormément de temps, de par mon métier. Et donc, je me suis dit, mais c'est fou que certains papas qui n'ont pas cette chance, parce que congé paternité, on en parlera tout à l'heure, qui pour moi n'est pas au point, encore chez nous en France. Donc moi j'ai eu cette chance de passer du temps avec mes filles, et je me suis dit mais c'est fou de se dire que t'as certains papas, là, certains darons qui m'entourent, qui font aller leur congé pas, pour certains, pour d'autres n'ont même pas la possibilité de le prendre, et qui ne vivent pas ce que je suis en train de vivre là, là, en ce moment, c'est fou.
Vous aviez envie finalement d'inciter les autres pères à partager ces moments exceptionnels dont Alexandre Lacroix nous a parlé tout à l'heure, puisque vous, Alexandre, vous avez aussi passé du temps avec votre enfant quand il est né. Guillaume Fosco, votre famille, elle est au centre de votre vie et sur scène, eh ben, c'est aussi un sujet central finalement.
Ouais. Faire du... Alors, je pratique le stand-up. Le stand-up, c'est souvent raconter sa vie et son quotidien. Moi, oui, effectivement, ça tourne autour de ça, que ce soit la relation avec mes enfants, avec ma femme et avec mes parents. C'est beaucoup du transgénérationnel. J'essaie de faire beaucoup de parallèles entre ce que j'ai vécu et ce que je vis avec mes enfants. C'est un sujet central.
Ouais, mais les humoristes des années 80-90, ils exploraient plein de thèmes, pas forcément celui-là.
Ouais, parce que je pense qu'ils passaient effectivement moins de temps. Moi, c'est pareil, j'ai eu la chance d'avoir les confinements, moi, au début de ma paternité. Donc j'en ai profité à fond. Et je pense qu'après, quand on y prend goût, c'est compliqué. Moi, je rebondis sur ce que vous disiez, sur l'émerveillement.
Ce que disait Alexandre
Lacroix, sur l'émerveillement d'avoir un enfant. Pour moi, c'est de voir l'émerveillement à travers leurs yeux, c'est quelque chose qui me fascine autant. Moi, ça me garde jeune, ça me garde enfant. Ça me ramène même à mon enfance. Et c'est quelque chose qui est, je sais pas, qui est incroyable au quotidien. Je ne sais pas de vendre la paternité,
mais on dirait.
Mais je buvais vos paroles là-dessus. Ça m'a fait exactement les mêmes sensations au tout début.
Alors justement, Alexandre Lacroix, votre roman La naissance d'un père raconte votre expérience de père, même si c'est un roman. Vous dites que si beaucoup d'écrivains abordent la paternité, ils sont généralement plus discrets sur leur paternité. Pourquoi, d'après vous ?
Oui, si vous prenez les grands écrivains hommes du XXe siècle, Hemingway a eu 3 garçons, Camus 2 enfants, Martin Amis, que j'aime beaucoup, un Anglais 6 enfants, je cite parce que c'est l'un des seuls qui en a un de plus que moi, donc voilà.
Il y a mon mari aussi, si je peux me permettre, il en a 6 lui aussi.
Voilà, et en fait, ces auteurs ont écrit sur le couple, sur la masculinité, ils ont écrit sur leur père, en tout cas dans le cas d'Albert Camus et de Martin Amis, la figure du père est au centre de la quête littéraire, mais ils n'ont rien, pas un mot sur l'expérience de la paternité. C'est quand même comme occultation, c'est sidérant. Et moi, je me suis dit que pour une nouvelle génération d'auteurs, peut-être au XXIe siècle, il y a un sujet à défricher. C'est pour ça que j'avais envie d'écrire un roman. Par exemple, je me suis dit, mais est-ce que des romanciers se sont déjà écrits dans toute cette littérature autobiographique, songez, je sais pas, à Carrère, ou est-ce qu'ils se sont déjà décrits en train de changer une couche? Et donc, je me suis dit, bon, allez, je relève le défi sur 2 pages, dans les moindres détails, je raconte comment on change une couche. Mais juste, ça a été occulté comme si c'était infralittéraire, c'est-à-dire comme si toute cette gamme d'expériences-là n'était pas digne de figurer dans des livres publiés en librairie ou présents en bibliothèque.
Mais pourquoi ? Parce que ça les rendait moins hommes, d'après vous ?
Oui, c'est-à-dire que je pense que les écrivains se présentent comme des éternels fiancés. C'est-à-dire que les écrivains dans leurs livres se présentent toujours comme disponibles à une nouvelle aventure, à une nouvelle conquête, comme s'ils étaient en démarche de séduction. Ils font un peu les pans, hein, c'est ce que je veux dire.
Je rappelle Claude François, à qui on interdisait de montrer ses enfants quand il en avait, il les a cachés. C'était pas bon pour l'image.
Oui, c'est-à-dire que l'écrivain se présente souvent comme étant disponible disponible à une nouvelle aventure, que ce soit partir en voyage au bout du monde ou une aventure féminine. Alors évidemment, si on raconte que l'écrivain, le même écrivain, change des couches le soir et donne le biberon la nuit, tout d'un coup, il tombe de son piédestal. Il n'est plus tout à fait auteur. Il est en quelque sorte enlisé. Et donc, en fait, c'est ça que j'avais envie de contourner. Et on parlait de la naissance qui vous métamorphose. Je crois qu'une des... C'est pas une mutation sociologique, mais un des grands changements de ces dernières décennies, c'est que les hommes sont entrés en salle de naissance. En fait, ils ont été conviés au mystère et à la violence de l'accouchement. Ils ont été conviés à assister à ce lieu qui était vraiment le lieu du gynécée, le lieu des femmes. Et leur regard s'est posé sur ce moment qui est suspendu, qui est risqué, qui est suspendu entre la vie et la mort. On est vraiment là, pour le coup, entre l'être et le néant. On tremble, et puis il y a cet arrachement à la matrice, et puis l'enfant qui crie. Et là, je pense que pour beaucoup d'hommes, c'est l'une des expériences les plus marquantes de l'existence. Et que ça vous change, en fait. Vous sortez de cette salle de naissance, vous n'êtes plus la même personne. Il y a des expériences qui sont comme ça transformatrices. Ben ça, c'est une expérience transformatrice. Moi, j'avais envie de parler de ça.
Rémi Guilloton, vous recevez chaque semaine des papas derrière un micro pour votre podcast Daron. On sait que les mères sont victimes. Beaucoup d'injonctions, reçoivent beaucoup d'injonctions, les pères aussi, il me semble. Quelle est, d'après vous, la plus forte à laquelle ils doivent faire face ?
Ben, on est encore malheureusement sur des schémas là pour le coup qui se répètent depuis quelques années, mais il y a moi ce que je ressens beaucoup c'est le financier, le côté financier. Tu dois assurer. J'ai beaucoup de papas qui me disent écoute moi j'essaye de faire le max en tout cas, j'ai l'impression de m'investir. J'imagine qu'on viendra sur la charge mentale où la plupart des pères me disent « Ok, non, je suis bien, je pense qu'on fait 60-40 ou allez, il y a 70-30. » Et puis quand on parle à leur femme, clairement, le niveau n'est pas le même. Mais souvent, moi, ce qui me choque le plus, c'est ce côté « Quoi qu'il, un père en 2025 doit quand même assurer financièrement, doit être une sorte de mur porteur qui ne peut pas flancher, qui doit être solide, qui doit être présent. » Et ça... Il y a quelque chose qui est particulier parce que quand on essaye au mieux de partager les tâches au quotidien et d'essayer d'être aligné à ce niveau-là pour que tout le monde s'y retrouve à la maison et que les enfants, justement, on parlait tout à l'heure, aient une belle vision de ce que c'est que la parentalité parce que les enfants nous écoutent plus qu'ils nous regardent. Enfin, nous regardent, pardon, plus qu'ils nous écoutent. Donc, c'est beau aussi de voir un père hyper investi. Mais on a quand même, et j'ai beaucoup d'amis qui m'en ont parlé et des invités, ce côté... financier qui reste ancré, solide. Et ça, j'ai l'impression que ça ne bouge pas depuis des dizaines et des dizaines d'années.
En tout cas, pas suffisamment. Exactement. Vite. Être un père investi, d'après vous, et être performant professionnellement, est-ce que c'est compatible ?
Ouais, c'est compatible. Bien sûr que c'est compatible. Mais il faut, encore une fois, et j'en parle beaucoup dans mon bouquin, c'est qu'il faut que dans le couple, il y ait une vraie discussion là-dessus. Il faut qu'on puisse poser des bases solides sur le fonctionnement du foyer. Un peu comme une boîte, un peu comme dans une entreprise, on remet les choses à plat, on se dit, ok, t'es plutôt, toi, tu peux t'occuper de quoi, par exemple ? Ben moi, je serais plutôt là-dessus, ok, je prends cette charge-là. Et toi, moi, par exemple, les devoirs. Bon, c'est pas ma partie, voilà. J'ai pas voulu lâcher les devoirs, mais j'ai cru comprendre très rapidement que ma femme, c'était son domaine. Elle m'a dit, ok, ça, je m'en occupe. Et puis moi, je suis peut-être un peu plus solide sur certaines choses. Et on arrive, tant bien que mal, à trouver une solution qui est plutôt à l'équilibre. Je pense qu'on est sur un 60-40. J'espère qu'elle est d'accord avec moi là-dessus. Je pense qu'elle m'écoute et à tout moment, elle vous appellera.
Et on l'embrasse.
Mais voilà, et je pense que ça, c'est hyper important.
Ça, c'est la répartition des tâches dont vous parlez au sein du couple. Et on y reviendra tout à l'heure. Guillaume Fosco, vous avez la particularité d'être un artiste. Vous êtes humoriste, vous êtes sur scène, vous êtes en tournée. Comment vous faites pour être présent et investi en tant que père ? Est-ce que c'est compatible, ça ?
Oui, il faut être déjà à deux. C'est des décisions communes. On parle de charge mentale à l'instant. Pour faire de la scène, avant même que je me lance dedans, il y a eu une vraie discussion sur justement, je veux quand même être un père, je veux être investi. Comment on s'organise pour que ta vie et la mienne soient compatibles avec la parentalité ? Donc, je me serais jamais lancé là-dedans. Ça me serait même pas venu à l'idée de le faire sans en parler avec ma femme et de s'organiser autour de ça. Être sur scène, c'est concrètement être entre 3, 4, 5 soirs par semaine en dehors. Ça veut dire que tout l'emploi du temps est réorienté autour de ça. Ça veut dire que c'est moi qui les emmène à l'école, je vais les chercher.
Et ensuite, on décale la journée. Ça fait vraiment partie intégrante de votre planning de tourner, c'est vos enfants. Alors, j'ai une question, oui, très simple. Est-ce que vous pensez que votre papa, lui, pensait sa vie comme ça ?
Non, mais non, non, non. C'était. Mais après, il y avait la pression financière dont parlait Rémi, qui était très, 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 très présente. C'était mon père devait ramener l'argent du foyer, donc il s'investissait autant qu'il pouvait. Il avait même une vie associative à côté, parce que c'était ça pour son bien-être personnel. Et ensuite, effectivement, tout s'orientait autour de ça. Donc, ma mère se mettait à mi-temps. Nous, on se débrouillait seul quand il fallait. Ça avait rien à voir comme modèle avec ce que mes filles connaissent maintenant.
Ce qui me semble évident, c'est que les papas d'aujourd'hui, ils ont pour la plupart connu un père différent de celui qu'ils sont devenus. On va écouter l'humoriste Jason Brockers, qui a été votre invité, ouais, Rémi, dans le podcast Daron.
Comment t'as réussi, toi, à faire le point entre ce qu'on t'a donné comme éducation, la place du père dans ta vie, ton père, et ce que toi, tu avais envisagé? Comment tu le vis même encore actuellement?
Je pense pas que je l'ai conscientisé. Je pense juste que ça s'est fait très naturellement, en fait. Et c'était pas un rejet, c'était pas... Je me suis jamais dit, ok, je vais pas faire comme mon père. Juste, je l'ai fait, quoi, c'est tout. Et au final, moi, c'est ma mère qui me dit toujours, t'es une super daronne. Moi, ma mère, elle me dit toujours, t'es une super mère.
Ouais, c'est marrant. T'as reçu quel genre d'éducation, toi, du coup?
Oh, bah, comme tous les gars de notre génération, hein. Maman, ouais, qui s'est occupée de nous six. On était six, nous. Et puis papa, qui allait au travail, quoi.
Ouais.
Et qui était là, quoi. Mais mon père, six enfants, il a changé zéro couche, quoi, tu vois.
Guillaume Fosco, comment assumer auprès de celui qui nous a élevés de ne pas reproduire son modèle éducatif?
Il y a des choses qu'on ne reproduit pas, mais il y a quand même des choses qu'on reproduit. Moi, j'ai un modèle de père qui était très aimant et très présent émotionnellement. Donc, en fait, finalement, la nouvelle génération, elle fait ce qu'ont fait toutes les générations précédentes, j'ai l'impression. Elle a enlevé ce qui lui plaisait pas et elle a gardé ce qui lui plaisait.
Mais sur les choses qui ne lui plaisaient pas, il n'y a pas des choses où vous dites « Ah bah tiens, non
Si, la violence physique. J'ai pas été battu, mais il y avait une limite physique à notre comportement. Ça a été très présent, moi, dans mon enfance. Pas très présent, on va dire. Ne serait-ce que ça, évidemment. Alors après, quand j'en parle à mon père, il me dit « Non, on vous a pas tant tapé que ça. Hein. » Non, il y a une mémoire sélective.
Ils ont oublié.
S'ajoute à ça, ils ont oublié. Mais ne serait-ce... Enfin, il y a tellement de différences, mais l'implication émotionnelle, effectivement, n'était pas la même. L'amour était là, on ne le montrait pas de la même manière et on ne s'impliquait pas autant émotionnellement. Ça, c'est une vraie différence que je mets, en tout cas, moi, au quotidien.
Globalement, vous avez pris ce que vous avez voulu.
Ouais.
Et vous l'avez transformé, vous avez évolué avec votre temps, on dirait. Donc, on est ensemble jusqu'à 11h. J'aimerais bien que vous nous disiez, vous qui nous écoutez, ce que vous pensez de ce qu'on vous dit ce matin, de nos invités. On est ensemble jusqu'à 11h pour y voir clair sur les papas qui nous entourent. Et on poursuit cette discussion juste après Ludivine Sagnier. Elle nous dit, c'est pas un message pour vous, hein. Elle dit, papa, t'es plus dans le coup. Prenez-le comme vous voulez.
Bon, jamais.
Papa, t'es plus dans le coup. 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 Papa
Ludivine Sagnier, papa, t'es plus dans le coup.
Yasmine Ouglis.
Mon papa, il est super mignon, super gentil. Il est super beau.
Grand bien vous fasse.
Il est pas mauvais perdant ou non. Quand je passe un maxi de temps avec lui, très 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 précieux.
Sur France Inter.
Autour de moi ce matin, trois papas investis auprès de leurs enfants qu'ils revendiquent aux yeux de tous. Guillaume Fosco, humoriste sur scène avec son spectacle Daron Fragile, Rémi Guilloton, producteur du média Daron, et Alexandre Lacroix, philosophe et auteur du roman La naissance d'un père. Et nous sommes également en ligne avec Guillaume Daudin, co-auteur de la BD documentaire L'arnaque des nouveaux pères aux éditions Glénat. Bonjour Guillaume.
Bonjour Yasmine, bonjour à tous. Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors le titre de votre enquête est très explicite. Selon vous, les nouveaux pères dont on nous parle souvent dans les médias n'existeraient pas vraiment, quoi.
Ben, ils existent à la marge, ils existent parce que on les voit et on voit les pères qui sont plus investis. Mais notre BD elle s'ouvre sur un cas qui est assez parlant, qui va parler à beaucoup de monde en ce moment, c'est les vacances. Et c'est les vacances où on voit que les vacances c'est un peu plus pour les pères que pour les mères dans les couples hétéros. Ça s'ouvre avec une étude de l'IFOP qui dit que pendant les vacances, les mères font 72% des valises et les pères 12%. Pendant les vacances, les mères font 70% des lessives et les pères 10%. C'est-à-dire qu'il y a des vacances un peu plus pour les pères que pour les mères. Et c'est ce qu'on a voulu raconter dans cette bande dessinée avec Stéphane Jourdain et Antoine Grimet. C'est comment les pères sont plus investis aujourd'hui qu'avant dans le côté émotionnel, dans un certain nombre de choses joyeuses comme jouer avec les enfants. Mais la réalité statistique, la réalité du témoignage des mères aussi qu'on a pu recueillir, c'est qu'elles continuent à se coltiner toutes les tâches les moins agréables, comme ses lessives, ses valises, la charge mentale. Et ça bouge,
ça
un petit peu, mais ça bouge à la marge.
On a progressé sur le côté émotionnel, mais sur le côté pratique, il y a encore des efforts à faire pour nos papas. Vous avez publié des chiffres aussi qui sont importants. Est-ce qu'on peut se les rappeler, ces chiffres ?
Oui, on peut rappeler que selon l'IFOP, en gros, dans les années... selon l'INSEE, pardon, dans les années 1980, les pères géraient de mémoire 20% des tâches domestiques et parentales. Dans les années 2010, date des derniers chiffres disponibles, on est passé à 30%. Ça veut dire que entre les mains des mères, il y a toujours à peu près 70% des tâches qui persistent. Ça, c'est le signe quand même que si on efface les affichages et les choses positives qui nous sautent aux yeux, et bah dans la dureté des statistiques, il y a toujours une prédominance des mères là-dessus. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce que disait Rémi Guilloton sur la question du soin, parce que il y a tout un tas de choses qui sont un peu résiduelles entre guillemets, qui persistent, qui sont vraiment le dur des tâches qui sont pas prise en main par les hommes. Et là-dedans, il y a celle du soin, quoi. Vraiment, le soin des enfants, c'est un peu le domaine, je vais pas dire domaine réservé des mères, parce que ça voudrait dire qu'elles se l'accaparent. C'est le domaine qui est vraiment laissé entre les mains des mères. Et
pour l'instant, c'est le rôle qui leur est conféré et ce qui leur reste à charge, en tout cas. On a évoqué tout à l'heure avec Rémi, d'ailleurs, ce chiffre. 83% des rendez-vous sur Doctolib sont pris par les mamans.
Oui, c'est un chiffre qui nous a paru saisissant avec Stéphane Jourdain. On s'est dit, ce chiffre-là, il montre beaucoup de choses. C'est que quand il s'agit de penser que dans 4 mois, quand on parle d'un petit bébé, il va falloir faire une vaccination. Quand il s'agit de penser à la visite annuelle chez l'ophtalmo ou chez le dentiste, ça, c'est quelque chose qui bipe beaucoup plus dans la tête des mères hétéros que des pères hétéros. Et ça, c'est quelque chose auquel notre BD dont notre BD a voulu parler, c'est cette persistance des raisons pour lesquelles les mères restent plus investies que les pères sur tous ces sujets-là.
On peut parler d'investissement, on peut aussi parler de charge, et ça nous amène à ce fameux débat sur la charge mentale. Vous qui nous écoutez, si ce débat vous inspire, n'hésitez pas à nous écrire ou nous appeler au 01 45 24 7000. Je suis un peu la représentante de la Confédération des mamans ce matin, excusez-moi, et on a une bonne majorité à rester celles qui font les valises pendant les vacances. Vous le disiez tout à l'heure, Guillaume, les pique-niques pour les sorties scolaires, on sait quand les slips sont trop petits et qu'il faut en racheter. J'aimerais qu'on s'arrête sur un mot souvent utilisé par les pères ou pour évoquer les pères. Ça va vous parler, c'est celui des dents. Les pères disent souvent à leur conjointe « As-tu besoin d'aide ?» Et à ce moment-là, Guillaume Dodin, ils ont l'impression de bien faire.
Oui, parce que c'est un peu toute une installation de la société qui place ses pères dans les rôles d'aidants. Alors, est-ce que ça doit être une excuse pour eux? Pas forcément, mais il faut imaginer que le congé paternité, vous en avez déjà parlé un petit peu, on peut en reparler, il est trop court, 28 jours. 28 jours, ça permet pas de s'installer dans un rôle de parent à temps complet, parce qu'on a vraiment l'impression d'être là en numéro 2 de la mère qui vient d'accoucher, qui est dans un moment corporel, émotionnel incroyablement fort, et on a l'impression d'être là pour aider, pour dépanner, pour faire le pompier à la maison. Et dans d'autres pays, c'est ce qu'on a été voir dans la BD, on a été en Suède notamment, il y a un congé parental qui est complètement différent, qui est pris pour environ 4 mois par les pères, avec toute une période où ils sont seuls avec les enfants. Et cette période-là, où on se retrouve seul à seul dans le dur de la parentalité d'un jeune enfant, parce que c'est pas que des moments joyeux et riants, on se retrouve à comprendre son enfant, à créer du lien avec lui, à comprendre comment ça marche de changer une couche, comment ça marche de le calmer, comment ça marche de lui donner un biberon.
On découvre son enfant, évidemment, c'est ce que disaient tout à l'heure Alexandre Lacroix et Guillaume Fosco. Ce fameux congé paternité, on va entendre un extrait d'un reportage de France Info de juin 2021.
Accompagner son bébé dans le premier mois de sa vie, ce sera désormais possible pour les papas. Ils avaient droit jusqu'alors à 11 jours de congé paternité, en plus des 3 jours à la charge de l'employeur. Ils pourront désormais bénéficier de 25 jours pour un premier enfant, dont 7 obligatoires, et jusqu'à 32 jours en cas de naissance multiple. Une nouvelle très attendue par certains pères.
C'est clé déjà dans la vie de l'enfant, et puis c'est très important pour un papa qui, lui, ne porte pas l'enfant, de tout de suite... tisser des liens forts avec son enfant.
C'est une avancée, mais c'est pas suffisant, je trouve. Que ça doit être à égalité entre hommes et femmes, histoire de réduire la charge sur la femme.
Alors, ce congé paternité, il a vraiment beaucoup évolué ces 50 dernières années, puisque, juste pour un petit rappel, entre 1945 et 2002, les pères avaient 3 jours de congé seulement. Guillaume Dodin, j'ai l'impression que c'est très bien, mais que c'est pas suffisant.
C'est que 28 jours, c'est encore pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on voit que si on fait le rappel de l'histoire comme vous l'avez fait, et 2001, en fait, c'est hier. Donc, oui. En 2001, on était à 3 jours pour les pères. Aujourd'hui, on est à 28 jours. L'histoire, elle avance un petit peu grâce à la mobilisation des mères et des pères sur ce sujet pour que le congé paternité soit allongé, mais on reste encore sur une différence qui est énorme. Elle a des justifications. La différence, c'est tout l'aspect physiologique, évidemment, de la grossesse qui fait que les femmes, évidemment, ont besoin d'un congé maternité qui est très long, mais on pourrait l'augmenter pour que chacun des seconds parents puisse prendre pleinement son rôle aussi de parent dès la naissance. Et il y a des études qu'on cite dans la BD qui montrent que, en fait, ce temps passé au départ avec l'enfant, il est bénéfique de manière très durable, c'est-à-dire qu'il installe des choses avec l'enfant, il installe aussi une reconfiguration du couple qui fait que, par la suite, le père, il sera plus investi, plus conscient de ce que c'est que la parentalité, et il va modifier aussi son rapport au travail pour pouvoir s'investir plus dans la maison. Et ça, c'est des effets bénéfiques à long terme.
Alexandre Lacroix, vous, ce temps avec vos enfants, vous l'avez eu. Pouvez-vous nous en parler ?
Oui, alors il y a eu des configurations variables au cours de ma vie professionnelle.
On rappelle que vous avez 5 enfants.
Oui. Et donc il y a eu plusieurs époques. Il y a eu une espèce d'époque un peu enchantée jusqu'à l'âge de 30 ans où j'étais écrivain, journaliste à plein temps, freelance. J'avais énormément de temps à consacrer à mon premier enfant. Mais depuis le confinement, par exemple, c'est vrai que ma femme travaille tous les week-ends, enfin du vendredi au dimanche. Donc c'est moi qui ai pris en charge les week-ends. Moi, j'ai toujours pris en charge, par exemple, la totalité des matins. Enfin, mais ce que je vois, c'est que il me semble que c'est intéressant de garder une certaine souplesse au fil du temps. C'est-à-dire que la charge professionnelle pour l'un ou pour l'autre dans un couple évolue énormément. C'est pas, surtout dans les vies professionnelles d'aujourd'hui qui sont peu linéaires. et que donc je pense qu'il faut s'épauler mutuellement suivant les opportunités professionnelles que l'autre rencontre. Enfin, voilà, là par exemple, les week-ends que j'ai pris en charge pendant plusieurs années, bah, ça a été l'occasion aussi de retrouver les enfants complètement. Parfois, c'est vrai que j'avais envie de me reposer aussi le week-end, et je me disais, bon, j'avais ma semaine derrière moi et c'était pas possible, mais au fond, ce sont ces équilibres mobiles. Ce que je sens derrière ce qu'on ne dit pas, derrière ces statistiques, c'est la manière dont le couple va appréhender la négociation. Mmh. Est-ce que ça va être une négociation tendue? C'est-à-dire, est-ce que ça va être une source de conflit, pour être clair? Ou est-ce qu'au contraire, on a l'impression...
On va pouvoir le faire de manière apaisée.
Ce que disait Rémi, peut-être, qu'on est une équipe et qu'on va essayer de trouver... Moi, j'ai l'impression qu'il faut se dire que ce qu'on va vivre, c'est une sorte de roman de chevalerie. C'est-à-dire que si on doit mener entre 30 et 50 ans sa vie professionnelle, sa carrière, et ma femme a fait une très belle carrière, mais si on doit mener sa carrière, sa vie professionnelle et en même temps s'occuper des enfants, eh bien on va être débordé, on va être fatigué, il y aura des épreuves physiques liées au surmenage, et c'est comme ça.
En tout cas, j'adore ce mot « équipe » que vous venez de prononcer. Notre sujet ce matin inspire nos auditeurs. Je vais vous lire le message de Julie. Elle dit « Mon conjoint n'a pas travaillé durant une dizaine d'années quand nos enfants étaient petits pour s'occuper d'eux. Quand il s'est remis à chercher du travail, ce trou sur son CV, justifié donc par ce congé parental, a été souvent perçu très positivement, surtout par les recruteurs femmes. C'est que, finalement, ça bouge. »
Rémi. Ouais, mais je suis assez étonné d'ailleurs d'entendre ça. Je pensais le contraire, vraiment. Un truc dans un CV de 10 ans, c'est toujours un peu compliqué. Mais alors, du coup, si on parle de recruteurs femmes, je trouve ça cool. Je trouve ça intéressant.
Concrètement, Rémi Guilleton, d'après tous les témoignages que vous avez pu recueillir, est-ce que tous les papas peuvent prendre ce congé paternité?
Oui, bien sûr. Bah, il faut le prendre, surtout. Moi, je j'ai le point levé en disant il faut le prendre. Parce qu'en fait, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, je parle de soins, je parle beaucoup de soins, mais en fait, on apprend ça au départ, si on ne s'occupe pas de son enfant. On parle de changer une couche, machin, mais en fait, on va parler d'un tout. Changer une couche, c'est devenu, j'ai l'impression, en tout cas maintenant, et je l'espère, quelque chose de commun pour nous tous, les pères. Parce que quand je parle de soins, c'est en effet les rendez-vous, mais c'est laisser du temps à la maman pour aller faire un tour avec le bébé, mais seul, et lui dire que ça va bien se passer, et la rassurer. On a beaucoup de mamans, beaucoup de mères qui disent, je lui fais pas confiance, je le sens pas prêt, je le sens pas, en tout cas, investi dans sa paternité, et en tout cas, moi, en tant que père, j'ai tenté de montrer à ma femme que j'étais vraiment focus et à fond pour qu'elle puisse se rassurer aussi.
Il y a un vrai sujet là-dessus.
En se disant, je peux te faire confiance. Et je pense que aussi la clé est là. Je reviens juste deux secondes sur ce qu'on parlait tout à l'heure, la charge mentale, mais ça, c'est un tout. Quand on dit que les mamans font les valises, les machins, l'été, c'est une vraie charge pour elles.
C'est moi qui l'ai dit et je l'assume.
Oui,
hein.
Bien sûr. Et les réservations et les machins. Mais dans ce cas, laissez les pères gérer le truc en disant, tu sais quoi, j'ai pas du tout envie de le faire cette année, fais-le. Ces injonctions qui sont pour vous, j'imagine, une charge, mais incroyable, laissez-les au père en disant « Tu n'as pas le choix, cette année, je ne m'en occupe pas. » Voilà, c'est ta partie. Et là, on verra ce qui se passe. Et c'est intéressant
on
de se dire...
On ne le fait pas assez, d'après vous?
Ouais, je pense que vous gardez ce truc en disant « S'il le fait, ça va être bancal, et il ne va pas savoir, il va manquer des slips et des machins. » Ouais, mais c'est ça le truc. Eh bien, vous savez quoi? Laissez faire les pères, et on verra, en arrivant dans le sud, si tu ouvres la valise et qu'il y a deux slips et une paire de claquettes, eh bien, vous
c'est passez... Pas si grave. C'est on pas si grave. On a compris qu'il levait le poing ce matin, Rémi Guilleton, mais vous n'êtes pas le seul. Guillaume Daudin, vous voulez réagir?
Ouais, je voulais réagir sur autre chose, sur ce que disait l'auditrice tout à l'heure, en expliquant que en gros le temps passé à la parentalité pendant tout un temps pour son conjoint avait été valorisé par les recruteurs. Ça, c'est quand même un truc qui montre bien que tout ce que font les pères avec les enfants est valorisé, tandis que dès que c'est une mère qui prend du temps pour son enfant, bah ça devient une charge, un fardeau et un malus en entreprise. Mais du coup, je vais aussi réagir sur ce que dit Rémi sur cette idée de laisser les charges. En fait, nous, on s'est posé la question dans la BD, est-ce que c'est la faute des femmes? Est-ce que c'est elles qui ne veulent jamais lâcher le morceau? Parce que on nous a dit ça quand on a écrit la BD, c'est un peu les femmes qui seraient fautives là-dessus. Et en fait, ce qu'on se rend compte en lisant tous les travaux, toutes les études là-dessus, c'est que elles font ça un peu mécaniquement, les femmes, déjà, parce qu'elles ont des injonctions fortes là-dessus, c'est-à-dire que si elles arrivent en vacances et qu'il n'y a pas de valise, et concrètement, les enfants, ils vont dire que c'est la faute de maman, plus que de papa. Les voisins et les copains en vacances, ils vont dire, bah, dis donc, maman, t'as pas fait les valises. Qu'est-ce qui s'est passé? Et elles vont aussi faire ça, peut-être prendre en charge un peu plus les tâches tout au long de l'année et en vacances, parce que elles se rendent compte que peut-être quelque part, c'est plus efficace si elles le font d'initiative que si elles se reposent sur des conjoints qui sont pas toujours au rendez-vous. Alors évidemment, on ne va pas généraliser, c'est pas toujours le cas, mais statistiquement, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit dans les retours de beaucoup de femmes.
Et on a aussi des retours de nos auditeurs. Chloé nous dit « Nous avons accueilli notre premier enfant et mon compagnon s'est révélé un papa formidable, s'investissant pleinement dans son nouveau rôle. J'en suis très heureuse, mais je suis toujours agacée d'entendre des gens dire « T'as beaucoup de chance, ton compagnon s'occupe très bien de votre bébé. » Quand, en tant que mère, j'ai jamais aucun compliment.
Ça serait intéressant de savoir qui lui dit ça. Est-ce que cette info vient, par exemple, ce point-là vient de sa propre mère. Moi, mon cousin vient d'être papa. Il vient d'être papa. Ils ont réussi tous les deux à trouver une solution. Parce qu'il faut rappeler quand même que maintenant, moi, j'ai vécu dans un schéma où maman était à la maison, papa bossait. Voilà, maintenant, on bosse, hein, tout le monde bosse.
Ça viendrait des anciennes générations, vous voulez dire ?
Ma cousine, donc, a repris le boulot et mon cousin s'est dit « Ok, j'arrête tout et je m'occupe de ma fille. » Parce qu'on n'a pas de solution de garde pour l'instant. L'info, ça, cette réflexion-là, vient de sa propre mère qui lui dit « T'as de la chance, quand même, ton mari t'aide quand même vachement. C'était pas le cas pour moi. » Et ça, encore une fois, ça vient d'un regard d'une mère, d'une autre génération, qui en effet lui dit « Eh ben tu vois, Agathe, t'as quand même de la chance. Hein. Il t'aide ton mec, hein, c'est fou. Hein. Il est quand même hyper focus. Regarde, il a arrêté son boulot pour s'occuper de la petite. Il t'aide au quotidien, machin. » Et c'est fou d'être encore là-dedans, dans ce regard de la maman, de ces générations, d'un autre temps, encore une fois, qui ont du mal à bouger.
Oui, mais bon, on le voit, hein, on l'a vu ensemble ce matin, les choses avancent et on va dans le bon sens. Je vous propose qu'on continue cette passionnante discussion après Chapel Roan, Naked in Manhattan.
Touch me, baby. Touch me, touch me, touch me. Touch me.
Stallone, Naked in Manhattan.
Je suis ton père.
France Inter.
Non. Non. Ce n'est pas vrai.
Grand bien vous fasse.
C'est impossible.
Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai.
Non.
Yasmine Ouglis.
Non.
Le meilleur héritage d'un père à ses enfants est un peu de son temps chaque jour, a écrit Antoine de Saint-Exupéry. Et ce ne sont pas nos invités ce matin qui diront le contraire. On est ensemble jusqu'à 11h et toujours en compagnie de trois pères à 100%. Alexandre Lacroix, philosophe, Rémi Guilloton, créateur du média Daron, et Guillaume Fosco, qui lui, dans sa parentalité, dans sa famille, essaye de s'imposer. Il essaye, je vous assure.
Bon, ben, c'est officiel, hein. Fête des pères, j'ai pas eu de cadeau cette année. Voilà, à l'école, ils ont remplacé ça par la fête des gens qu'on aime. Et chez moi, ça veut dire une fête des mères, tout simplement. Ça aurait dû appeler ça la fête des gens qu'on aime bien. Là, ça aurait pu le faire. Ou des gens qu'on aime après maman. Là, ça le faisait. J'abuse, j'ai eu un cadeau. C'était un porte-clés, en vrai, que ma fille avait mis dans une boîte. Et ma femme, elle a eu le porte-clés, moi, j'ai eu la boîte. J'ai eu le papy cadeau cette année, pas si mal. Il y a pire que moi, en vrai. Mon pote, parents séparés, le petit, il sort, c'est lui qui allait le chercher à l'école. Il lui dit, tiens, ça, c'est le cadeau des gens qu'on aime. C'est pour maman. Tu peux le tenir, s'il te plaît.
Avec toujours beaucoup de tendresse et d'humour, Guillaume Fosco nous parle de ces galères de papa. Évidemment, ça nous fait sourire. On pense aussi ce matin, évidemment, à nos enfants, à vos enfants. Alexandre Lacroix, en tant que philosophe, est-ce que vous pensez que l'éducation soit la clé du changement ?
Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé dans l'émission des enfants à travers les corvées que les enfants génèrent. Mais en fait, c'est vrai qu'elles existent, ces corvées, ces rendez-vous chez le médecin, ces couches à changer, ces biberons, ces réveils, ce rythme de vie qui devient un peu effréné, tout ça existe. Mais si on le fait quand même, je dirais que c'est parce que il y va, à mon avis, d'un des liens les plus forts qu'on arrive à créer. Et ce qui nous intéresse, nous autres humains, dans cette affaire, c'est pas les corvées, c'est que c'est à travers la filiation, on va pouvoir créer un lien, on va pouvoir se régénérer d'un lien qui est insécable. Moi, c'est ce que je trouve merveilleux, c'est que c'est tout le contraire, en fait, de la relation amoureuse. La relation amoureuse, vous rencontrez quelqu'un, mais vous choisissez la personne, elle vous convient, vous choisissez son physique. L'enfant qui naît, c'est un inconnu, c'est un être qui va vous surprendre, qui ne va pas correspondre à vos schémas, à vos attentes, à la figure de l'enfant que vous aviez rêvé, qui va être autre. Et pourtant, vous êtes lié à lui, c'est comme Tristan et Iseult, c'est pour ça que je parlais des romans de chevalerie, c'est-à-dire vous êtes lié, c'est une sorte de filtre d'amour au moment de la naissance, vous êtes lié pour toujours et de manière indéfectible à un être qui est fondamentalement autre et imprévisible pour vous. Et c'est, je pense, une des expériences de sortie de soi-même, voilà, parce que je synthétise. C'est-à-dire que on est trop préoccupé de soi dans l'existence. Et tout d'un coup, quand on a un enfant, on peut transférer son amour de la vie sur quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre compte plus que nous-mêmes.
On est complètement décentré. On utilise souvent cette expression. Guillaume Fosco, on vous a entendu parler de la fête des gens qu'on aime et du papa et de la maman. On sent toujours l'amour pour vos filles dans tout ce que vous dites, que ce soit sur scène ou sur les réseaux sociaux. Guillaume, comment aimeriez-vous que vos filles définissent le père que vous êtes ?
Comme un épitaphe, c'est une excellente question. Un père présent, un père empathique. Moi, j'ai l'impression que surtout être père de deux filles, je pense que Rémi sera d'accord avec moi, c'est aussi montrer un modèle qu'on aimerait qu'elles connaissent plus tard dans leur relation aux hommes. Donc, je pense que moi, comment j'aimerais qu'elles se rappellent de moi ou en tout cas qu'elles me définissent comme un père empathique et qui a su leur montrer ce que c'était de cohabiter avec un homme. Je pense que ça serait déjà pas mal.
Peut-être qu'elles diront mon daron, il est fragile, comme le nom de votre spectacle.
Mais ça me va, très
bien. Ça vous irait très bien.
Si ça vient l'empathie, oui, très bien.
Rémi Guilloton, d'après tous les témoignages que vous avez recueillis, qu'est-ce qui fera, d'après vous, que nos enfants seront des parents différents ?
Ah, j'ai l'impression, en tout cas, que en tant que papa, enfin en tout cas papa investi, et c'est le cas pour nous, et j'espère pour ceux qui nous écoutent actuellement. On leur montre une paternité différente avec laquelle ils peuvent communiquer. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père aimant, mais on n'avait pas ouvert la communication à ce point. Et la chance qu'on a, nous, en tout cas chez moi, c'est cette facilité à se dire les choses, à se dire je t'aime, à ne pas être que la grosse voix, le fameux daron. J'aime bien qu'on en parle parce qu'on change la définition du mot, du coup, que ce soit Guillaume ou moi sur mon média. C'est pas cette figure d'autorité, c'est cette figure avec laquelle on peut s'ouvrir, parler, communiquer, se sentir à l'aise, être libre de ses sentiments et de ce qu'on ressent, et d'être aussi cette figure-là. Et ça, c'est ça je trouvais extraordinaire pour nos filles, en tout cas, puisqu'il s'agit de filles actuelles.
Je vous remercie infiniment tous les quatre, Rémi Guilloton, Guillaume Fosco, merci. Alexandre Lacroix, Guillaume Daudin, qui était avec nous aussi ce matin par téléphone. Je rappelle, Alexandre Lacroix, le titre de votre roman, La naissance d'un père, édité chez Alary. Guillaume Fosco, vous êtes sur scène, oui, à Paris, en tournée dans toute la France, mais vous vous occupez quand même de vos enfants. Votre spectacle s'appelle Daron Fragile. Rémi Guilloton, on peut vous écouter, voilà, n'importe quelle heure de la nuit, quand on a une insomnie, au micro de votre podcast Daron. Vous venez de sortir aussi un guide, et ça il en existe peu, un guide pour les nouveaux papas qui s'appelle Nouveau Daron, bienvenue au club. Ça c'est chez Solar. Je rappelle l'enquête, la BD enquête documentaire L'arnaque des nouveaux pères à mettre entre toutes les mains. C'est Guillaume Daudin et Stéphane Jourdain. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne, Maria Pasquet à la réalisation et Loïs Moreau, Rémi Sissiaga à la technique, Jessica Bagic, Lucie Grandet-Lavigne, Noélia Filiol et Lina Garcia à la préparation. On se retrouve demain en direct à 11h avec d'autres invités passionnants pour parler de notre mémoire.